Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français en 1993 dans la collection La Pochothèque, l'Atlas de la philosophie, signé par Peter Kunzmann, Franz Peter Burkhard et Franz Widmann, est un ouvrage de synthèse et d'initiation consacré à l'histoire mondiale de la pensée philosophique. Son titre ne désigne pas un atlas géographique au sens strict, il propose plutôt une cartographie intellectuelle ou des planches en couleur. Des schémas et des textes brefs organisent doctrine, auteur, problème et filiation. L'ambition est double. Il s'agit d'abord de rendre lisibles des traditions parfois difficiles, depuis les pensées indiennes et chinoises jusqu'aux débats occidentaux du XXe siècle. Il s'agit ensuite de ne pas réduire la philosophie à une simple succession de grands noms européens. Le livre intègre la Grèce et Rome, la pensée arabe, le christianisme médiéval et les interactions entre savoirs. Sa forme condensée privilégie les repères, les oppositions conceptuelles et les continuités historiques. C'est donc moins un traité défendant une thèse qu'un instrument de consultation, de compréhension et de mise en relation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une cartographie visuelle pour ordonner la complexité philosophique. La singularité première de l'ouvrage tient à son dispositif pédagogique. Les planches en couleur alternent avec des commentaires concis afin de transformer une matière historiquement dense en parcours repérable. Une histoire de la philosophie peut vite devenir une liste d'auteurs, de dates et de doctrines isolées. Ici, l'organisation visuelle vise au contraire à montrer des rapports parentés entre écoles, ruptures dans les manières de définir la connaissance, tension entre visions du monde concurrentes. Le lecteur peut ainsi situer une doctrine avant d'en approfondir les termes. Cette méthode est particulièrement pertinente pour des notions dont le sens dépend d'un réseau de contrastes. Le rationalisme prend relief face à l'empirisme. L'idéalisme allemand se comprend par rapport aux problèmes légués par les Lumières. Le structuralisme et les philosophies de l'existence renvoient à des cadres intellectuels différents. La concision n'élimine pas la difficulté intrinsèque des sujets, mais elle impose une hiérarchie utile entre idées directrices et détails secondaires. L'ouvrage fonctionne dès lors comme une carte de référence. On peut le lire chronologiquement, l'ouvrir pour éclaircir un courant, ou s'en servir pour préparer l'étude d'un philosophe. Cette médiation par le schéma le distingue d'une simple encyclopédie alphabétique, sans prétendre remplacer les textes philosophiques eux-mêmes. Deuxièmement, une histoire de la philosophie qui commence aussi en Inde et en Chine, l'Atlas refuse de faire de l'Europe moderne le point de départ implicite de toute réflexion philosophique. Son sommaire accorde une place initiale aux traditions indiennes, Upanishad, système orthodoxe, jaïnisme et bouddhisme, ainsi qu'aux écoles chinoises, notamment le confucianisme, le taoïsme, le moïsme et l'école du yin-yang. Ce choix élargit le cadre habituel d'une introduction centrée sur la Grèce, puis sur la succession des périodes occidentales. Il ne signifie pas que ces traditions sont ramenées artificiellement aux catégories européennes. Il invite plutôt à reconnaître la diversité des questions philosophiques, statut du soi, ordre du monde, conduite juste, connaissance, souffrance ou rapport à la communauté. Pour un lecteur débutant, cette ouverture est importante parce qu'elle corrige une impression trompeuse de linéarité. Les manières de penser la vérité ou la sagesse n'ont pas une origine unique. Le livre relise ensuite cet horizon au monde grec et romain, tout en conservant leur caractère propre présocratique, sophiste, Socrate, Platon, Aristote, épicurisme. Stoïcisme, scepticisme et néoplatonisme y forment des repères majeurs. La valeur de ce panorama réside donc dans sa comparaison structurante. Il rend visible que la philosophie est à la fois une pluralité de traditions et une histoire de problèmes récurrents, reformulés selon les langues, les institutions et les contextes culturels. Troisièmement, la pensée arabe et le Moyen-Âge réintégrés dans les continuités du savoir. L'un des apports notables du livre est de traiter le Moyen-Âge comme une période de production et de transmission philosophique, plutôt que comme un simple intervalle entre l'Antiquité et la Renaissance. La patristique. L'augustinisme et la scolastique sont présentés aux côtés de la philosophie arabe et de figures médiévales telles que Roger Bacon, Raymond Lull, Jean Duns Scott, Maître Eckhart, Guillaume d'Ockham ou Nicolas de Cus. Cette composition rappelle que les débats médiévaux ne portent pas seulement sur la théologie, ils engagent aussi la logique. Les conditions du langage, le rapport entre foi et raison, la structure du réel et la portée de la connaissance humaine. Inclure la pensée arabe est décisif pour comprendre les circulations de textes et d'interprétations entre civilisations, particulièrement autour de l'héritage antique. L'ouvrage souligne plus généralement les influences réciproques entre domaines du savoir, ce qui empêche de concevoir les doctrines comme des systèmes fermés sur eux-mêmes. Cette perspective prépare une lecture plus exacte de la Renaissance et de l'âge classique. Les transformations ultérieures ne surgissent pas dans un vide intellectuel. La limite inhérente au format synthétique demeure que les controverses, les contextes institutionnels et les différences internes à ces traditions ne peuvent être exposées exhaustivement. Mais comme outil d'orientation, l'Atlas fournit un correctif utile au récit simplifié qui oppose abruptement antiquité, religion médiévale et rationalité moderne. Quatrièmement, de la Renaissance à Kant, repérer les fractures de la modernité occidentale, pour les périodes modernes et contemporaines. Le livre propose une armature chronologique qui aide à identifier les grandes reconfigurations de la pensée occidentale. La Renaissance y rassemble notamment l'humanisme, Montaigne, Giordano Bruno et Francis Bacon. Elle marque une diversification des rapports à l'Antiquité, à la nature et à l'expérience. Le XVIIe siècle est ensuite structuré par une opposition devenue classique. Mais indispensable le rationalisme de Descartes, Spinoza et Leibniz, d'une part, l'empirisme de Hobbes, Locke et Berkeley, d'autre part. Présentée avec rigueur, cette distinction ne réduit pas ces auteurs à des étiquettes. Elle fournit un axe pour comprendre leur désaccord sur la source, la méthode et les limites de la connaissance. Les Lumières et l'idéalisme allemand prolongent et déplacent ces problèmes. Kant, puis Fichte, Schelling et Hegel occupent ainsi une position essentielle dans une histoire où la raison ne se définit plus seulement comme faculté de connaître, mais aussi comme puissance critique, pratique et historique. L'enchaînement vers Schopenhauer, Kierkegaard, Marx et Nietzsche fait apparaître les contestations de certains héritages rationalistes ou idéalistes. La force du format Atlas est de rendre ces passages intelligibles comme des transformations de questions communes. Son usage optimal consiste toutefois à l'employer comme cadre initial, puis à retourner aux œuvres une carte des controverses éclaire le terrain, mais ne dispense ni de l'argumentation, ni de la lecture des textes. En dernier lieu, le XXe siècle présenté comme pluralité d'approches plutôt que comme école unique. La dernière partie de l'Atlas couvre un XXe siècle particulièrement difficile à résumer, car les courants y deviennent nombreux, spécialisés et souvent concurrents. Le livre retient notamment Bergson, la phénoménologie, les philosophies de l'existence, Heidegger, l'épistémologie, le structuralisme, ainsi que Foucault, Deleuze, Derrida et Lévinas. Cette sélection ne prétend pas épuiser le siècle, elle dessine des lignes de force. Certaines approches interrogent l'expérience vécue, la conscience et l'existence. D'autres examinent les conditions de validité des sciences. D'autres encore déplacent l'attention vers les structures du langage, des savoirs, des institutions ou des rapports à autrui. Réunir ces orientations dans un même ensemble est utile, à condition de ne pas effacer leurs désaccords. La phénoménologie, l'épistémologie et le structuralisme ne répondent ni aux mêmes objets ni par les mêmes méthodes. Les penseurs associés à la philosophie française de la seconde moitié du siècle ne constituent pas davantage une doctrine homogène. Le bénéfice de l'Atlas est précisément de fournir des repères avant une spécialisation nécessaire. Il aide à comprendre pourquoi la philosophie contemporaine ne se laisse pas ramener à une unique question métaphysique ou morale, elle dialogue avec les sciences, l'histoire, la linguistique, la politique et l'éthique. Cette amplitude explique aussi l'exigence signalée par certains lecteurs, la clarté graphique accompagne une forte densité conceptuelle. En conclusion, l'Atlas de la philosophie s'adresse prioritairement aux étudiants qui cherchent une première structure d'ensemble, aux lecteurs autodidactes désireux de sortir d'une vision limitée de la discipline, et aux enseignants ou lecteurs qui ont besoin de repères rapides avant d'aborder des textes plus spécialisés. Il sera particulièrement utile à qui souhaite situer un auteur dans son époque, distinguer des courants souvent confondus, ou comprendre les continuités entre problèmes de connaissance, de morale, de politique, de langage et de métaphysique. Son bénéfice pratique n'est pas de fournir des solutions philosophiques toutes faites, mais de rendre les questions mieux formulées et les filiations plus visibles. La lecture gagne à être active, consulter une planche, relever les oppositions proposées, puis vérifier et approfondir dans les œuvres des auteurs concernés. Par rapport à une histoire purement narrative, l'ouvrage se distingue par son articulation entre texte bref et représentation visuelle. Par rapport à un dictionnaire, il privilégie les relations historiques et conceptuelles plutôt que l'entrée isolée. Et par rapport à de nombreuses introductions occidentalo-centrées, il inclut explicitement les pensées de l'Inde, de la Chine et du monde arabe. Son format compact implique nécessairement des raccourcis, et certains lecteurs pourront souhaiter davantage de schémas ou de développement. Il ne faut donc pas le confondre avec une étude exhaustive. Mais cette limite correspond aussi à sa fonction offrir une carte dense, accessible et comparatiste d'un champ immense. C'est un bon ouvrage de seuil et de référence, plus exigeant qu'un simple survol, mais moins intimidant qu'une encyclopédie ou qu'une succession de monographies savantes. Si vous souhaitez soutenir Peter Kunzmann, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.